BW. Magazine Environnement.
Au menu, le stress thermique dû au changement climatique est source de pertes d'emplois ou encore la réhabilitation des terres dégradées en Afrique du Sud.
Le stress thermique, c'est une situation où il fait trop chaud pour travailler à un rythme normal. Une situation qui peut se produire dès qu'on atteint 24 degrés, mais qui en général est commune quand on a 35 degrés dans des conditions d'humidité.
Mesdames et messieurs, bonjour, Kosivi Tiassou au micro. Une nouvelle étude de l'Organisation internationale du travail a estimé que le réchauffement climatique risque de causer des pertes de 2,4 milliards de dollars et près de 80 millions d'emplois en temps plein d'ici 2030. L'étude de l'Organisation internationale du travail a indiqué que les deux régions qui sont le plus touchées sont l'Afrique centrale et l'Asie du Sud. Catherine Sagé est chef d'unité au département de la recherche à l'Organisation internationale du travail.
C'est des pertes au niveau global qui sont très importantes puisque ce chiffre de 2 400 milliards de dollars de pertes en 2030, il est équivalent à l'économie du Royaume-Uni. Donc ça, ce sont nos chiffres au niveau global. Nous avons produit des estimations pour tous les pays du monde. Et ce qu'on trouve, c'est que les deux régions qui sont les plus impactées sont l'Asie du Sud, donc l'Inde, le Pakistan, le Népal, et aussi l'Afrique centrale, avec des pertes d'heures travaillées qui peuvent atteindre 5% en 2030. Nous avons choisi de suivre cette estimation du changement climatique de 1,5 degré d'ici à la fin du siècle par rapport au 19e siècle, parce que nous voulions vraiment produire des estimations pour le meilleur des cas. Dans la meilleure situation possible, on trouve que l'impact sera quand même très négatif, surtout sur les économies des pays en développement.
Selon l'Organisation internationale du travail, les deux secteurs économiques particulièrement concernés par l'augmentation du stress thermique au travail sont l'agriculture et la construction.
L'impact dans des pays comme le Niger, le Bénin, le Tchad, la Centrafrique, il est dû au fait que ces pays ils sont impactés par le changement climatique parce que ce sont des pays tropicaux. Il y a un effet sur le genre qui est très flagrant. D'abord, les travailleurs du secteur de la construction sont très impactés et 19% de la perte d'heures travaillées sont dans le secteur de la construction et on sait que ce sont majoritairement des hommes qui travaillent dans le secteur de la construction. Donc c'est eux qui subissent les effets de la chaleur qui s'évanouit sur les chantiers de construction. Mais on sait aussi que dans l'agriculture de subsistance, c'est une majorité de femmes qui travaillent et là ce sont elles qui sont dehors dans les champs à travailler dans des conditions extrêmement dures. Alors l'agriculture et la construction, pour deux raisons. D'abord, ce sont des secteurs où les travailleurs font un travail physique très intense, donc ils sont plus sujets. Ils subissent l'augmentation de la chaleur, les vagues de chaleur de façon plus importante, et aussi parce qu'ils travaillent à l'extérieur. Et donc là aussi, l'impact est plus fort. Nous, on a regardé ce qui se passait pour quatre secteurs, l'agriculture, la construction, l'industrie et les services. Donc on n'est pas allé dans le détail, par exemple, des ramasseurs de déchets, mais on sait que là aussi, on a des travailleurs qui d'abord travaillent souvent dans des villes. Et en ville, on sait qu'il fait encore plus chaud que dans les campagnes autour, jusqu'à 2-3 degrés, c'est très courant. Et deuxièmement, c'est des travailleurs qui font aussi un travail physique et qui travaillent à l'extérieur. Donc eux aussi sont sujets aux conséquences négatives. Et on sait qu'en Afrique encore, il y a des efforts à faire au niveau des stations météo et de la façon dont l'information est diffusée. Donc ça, c'est une voie. Deuxièmement, on fait aussi une meilleure protection santé au travail avec des campagnes d'information sur ce qu'il faut faire pour soi et pour les autres. En termes d'infrastructure, on peut aussi faire beaucoup plus. Et toutes ces questions doivent être aussi discutées entre les travailleurs et les employeurs sur comment est-ce qu'on peut réagir quand il y a une grosse vague de chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter, pour que les gens continuent à faire leur travail, que l'entreprise puisse continuer à tourner et quand même que les gens soient protégés dans leur santé.
Catherine Sagé, chef d'unité au département de la recherche à l'Organisation internationale du travail, était au micro de l'ONU Info. Et on part en Afrique du Sud pour parler de comment certains paysans font face au stress thermique. Jusqu'à un passé récent, c'est l'élevage qui fait vivre la plupart des paysans du Cap-Est. Mais ces dernières années, ils se sont reconvertis à la culture de fleurs indigènes destinées à l'extraction d'huile essentielle pour disposer d'une source de revenus alternative. Ces plantes nécessitent peu d'eau et aident à prévenir la désertification. Un reportage de Stéphane Meul que nous présente Sophie Serbini.
Le romarin est une herbe qui affectionne les endroits secs et ensoleillés. Ses vertus se concentrent dans ses extrémités où se trouve la précieuse huile éthérée, une ressource précieuse pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. L'agriculteur William Van Rensburg est angoissé. C'est sa première moisson et le futur de toute la vallée dépend de cette récolte.
L'élevage ininterrompu de bétail et l'espace limité ont tout simplement épuisé nos terres. Nous avons dû trouver d'autres sources de revenus pour pouvoir continuer à élever nos bêtes tout en produisant des huiles.
Ici, tous les agriculteurs élèvent des chèvres angora dont la laine mohair est un produit de luxe prisé dans l'industrie textile. Mais l'augmentation du nombre de chèvres a eu raison de la végétation locale. Autrefois, les terres étaient recouvertes d'une épaisse végétation verte. Aujourd'hui, les étendues désertiques sont arides et la faune a disparu. Daniel Foury dirige la Bavianskloof Development Company. Avec Van Rensburg et d'autres agriculteurs, il gère la transition de l'élevage de bétail à la culture biologique de plantes productrices d'huiles essentielles. Celles-ci sont extraites dans cette distillerie.
Les huiles essentielles sont issues d'un grand volume de plantes qui, une fois distillées, donnent une petite quantité de produits faciles à transporter à l'intérieur et à l'extérieur du clof. C'est une culture à haut rendement pour laquelle il nous faut peu de terre.
L'utilisation plus efficace des sols a fait ses preuves. L'agriculteur Peter Kruger a longtemps utilisé ses 600 hectares pour le pâturage. Aujourd'hui, il cultive uniquement 20 hectares de romarin pour le même rendement. Il a vendu ses chèvres et la majeure partie de sa propriété a été classée réserve naturelle. Foury espère que d'autres fermiers suivront son exemple.
Le plus difficile est de faire évoluer les mentalités des agriculteurs, de leur faire modifier leur façon de faire, celle qu'ils pratiquent depuis 40 ans. Nous les encourageons à passer d'une exploitation agricole extractive à une pratique régénérative.
Sans chèvres, les sols récupèrent peu à peu. L'organisation The Living Lands aide les fermiers à revitaliser leurs terres. Ici, sur un terrain complètement dégradé qui avait été totalement rasé par le pâturage, Otto Bux et son équipe ont travaillé durement pour protéger le moindre arbre. Des buissons épineux gardent les chèvres à distance tandis que des barrières en toile retiennent les eaux de pluie et maintiennent le précieux sol. Sous les épines germent de nouveaux espoirs.
On assiste au tout premier changement, même à une petite échelle. Nous venons de traverser l'une des pires sécheresses depuis un siècle. Et malgré cela, nous observons des changements positifs dans l'écosystème.
Cela a entraîné un sursaut d'espoir pour tous les participants. Van Rensburg a dû investir dans un nouveau système d'irrigation de plus de 65 000 euros. Mais la première récolte de romarin semble prometteuse et il est sûr que son investissement sera payant. Un acheteur espagnol a déjà passé commande pour la première récolte de Bavianskloof. Si la qualité est à la hauteur des attentes, les agriculteurs pourront vendre leur huile biologique à 80 euros le litre, multipliant ainsi par 100 leurs revenus par hectare.
Un reportage de Stéphane Meul, présenté par Sophie Serbini. Un forum de haut niveau sur le développement durable s'est tenu la semaine dernière au siège des Nations Unies à New York. C'était l'occasion pour les pays de partager leurs expériences, bonnes pratiques et défis dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Une politique de développement durable, c'est ce sur quoi mise Haïti pour son développement. Géry Tardieu, député de Pétionville, une commune de la banlieue de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti.
Bon, pour les ODD en général, il y a eu quand même pas mal de progrès, dans le sens qu'il y a eu croissance économique, mais il y a eu aussi augmentation de la pauvreté. Donc il y a une déconnexion entre ces deux paramètres, puisqu'au fond, quand il y a croissance économique, elle doit pouvoir bénéficier inévitablement aux plus vulnérables de la société. Donc de ce point de vue-là, il y a un effort qui a été fait quantitativement, mais qualitativement, je pense que nous avons encore beaucoup à faire. Pour Haïti, nous avons été quand même victimes de désastres naturels, nous avons une instabilité politique et sociale chronique, les choses ont été encore plus difficiles. Nous vivons aujourd'hui une crise multiforme, elle est sociale, elle est économique, elle est financière, elle est institutionnelle très certainement, toute cette crise-là va avoir comme effet de nous retarder dans nos objectifs et nos efforts d'atteindre les objectifs du développement durable. Un pays comme Haïti, où 80% de la population est composée d'hommes et de femmes qui, en se levant les matins, ne savent pas s'ils auront de quoi s'acheter un plat chaud. Vous vous imaginez ce que c'est que ce défi. C'est un défi d'abord de survivre, de subsistance, d'exister. Donc, ça vous donne aussi l'ampleur du défi et des défis qui nous attendent. Les défis sont nombreux. D'abord économiques, il nous faut définitivement trouver les moyens de pouvoir financer un développement, mais un développement durable, avec une croissance économique qui bénéficie les plus pauvres. Pour cela, il faut la stabilité sociale, la stabilité politique. Sans stabilité, il n'y aura pas d'investissement. Sans investissement, il n'y aura pas création d'emplois. S'il n'y a pas création d'emplois, il n'y a pas moyen pour nous d'atteindre les objectifs de développement durable tels que spécifiés, tels que nous ambitionnons de le faire, tels que nous aurions voulu le faire. Nous disons que nous restons quand même précautionneux parce que nous sommes restés sur notre faim après le tremblement de terre qui a détruit la capitale d'Haïti et qui nous a pris 300 000 de nos frères et sœurs. On est resté sur notre faim. Il y avait de grandes promesses, 10 milliards de dollars, desquels seulement 3 ou 4 ont été déboursés. Et même de ces 3 ou 4 milliards, beaucoup de cet argent a été dépensé de façon, je dirais, inconsidérée ou disons pas de la manière la plus efficace que possible. Haïti est un pays, et ça va vous étonner ce que je vais dire, qui est trop riche pour être pauvre. Mais c'est riche en potentiel, d'abord en potentiel humain. On dit toujours du peuple haïtien qu'il est un peuple résilient, mais on ne peut pas réduire aussi à notre population à être un peuple résilient. Nous sommes beaucoup plus que ça. Hein. Nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple dynamique, nous sommes un peuple avec une histoire très très riche.
Jerry Tardieu, député de Pétionville, une commune de la banlieue de Port-au-Prince en Haïti, était également au menu de ce magazine cette semaine. Le stress thermique dû au changement climatique, source de perte d'emplois et sans oublier la réhabilitation des terres dégradées en Afrique du Sud. Merci de nous avoir suivis. Kossi Vitiasou au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. I believe.